Baptiste Ligier, rédacteur en chef de la revue Lire. Bonjour Baptiste.
Bonjour Mathieu.
Vous vous demandez aujourd'hui si écrire est forcément faire acte de littérature.
En tout cas, bon, vous connaissez ce bon vieux sujet de dissertation pour épreuve du bac, hein. D'ailleurs ça se rapproche. Mais la question n'a eu de cesse de poser en fin de compte au fil du temps, ramenant en creux la définition même de la littérature. Qu'en est-il par exemple de la correspondance des auteurs, des petits documents griffonnés, des articles de presse, des tribunes, voire des listes de courses ou des recettes de cuisine, qui ont été sujets à discussion. Mais on pourra aussi s'interroger naturellement sur cette ambiguïté sémantique au sujet des tweets d'un écrivain.
Les tweets, les voilà.
Et oui, il va sans dire qu'un message résumé en 140 ou désormais 280 signes possède intrinsèquement une contrainte qui a quelque chose de, j'allais dire, stimulant, pour de nombreux écrivains. Les oulipiens en tête. On peut prendre quelqu'un comme Alain Weinstein, par exemple, un nom bien connu des auditeurs de France Culture, qui avait composé un ouvrage intitulé 140 signes, à partir de ses propres messages de ce type. On pourrait aussi évoquer le cas de la très dépressive poétesse américaine Melissa Broder, avec son recueil d'essais à succès, So Sad Today, tiré de son compte Twitter. Et comment ne pas citer notre bon Bernard Pivot, national de l'Académie Goncourt, et son compte, suivi quand même par 1 million de followers, et dont Albin Michel avait publié un recueil. Pour autant, l'immense majorité des tweets, bon, il faut bien reconnaître, n'ont pas forcément un grand rapport avec l'art du haïku. Ils permettent, bon, aux écrivains, comme tout un chacun d'ailleurs, de donner des informations personnelles ou professionnelles, de communiquer avec leurs lecteurs, ou même parfois d'offrir un prolongement de leur œuvre. Mais s'il y a bien un cas très particulier sur le sujet, c'est Bret Easton Ellis. D'ailleurs, dans son brûlot autobiographique qui fait événement, White, il revient sur son expérience très particulière des réseaux sociaux.
Il faut dire que l'auteur d'American Psycho s'est bien amusé avec Twitter et qu'il a multiplié les provocations.
Ah oui, en sachant très bien d'ailleurs que les réactions n'allaient pas tarder. Vous voyez, c'est un petit peu comme un matador avec sa muletta. On va prendre quelques exemples. En 2012, Bret Easton Ellis écrivit un tweet polémique au sujet de la cinéaste Catherine Bigelow, réalisatrice de Des Mineurs. Selon lui, il s'agit d'un réalisateur vaguement intéressant si elle était un homme, mais comme c'est une femme sexy, elle est complètement surestimée. Je cite, imaginez le tollé. Bret Easton Ellis avait aussi choisi Twitter pour faire connaître son désir d'adapter pour le cinéma 50 nuances de Grey. Bon, la démarche n'a guère été fructueuse. Mais il faut aussi se méfier des téléphones portables, alors qu'il croyait commander de la drogue à son dealer par SMS, c'est authentique. Notre homme avait en réalité tweeté sur son compte sa liste, on va dire, de commissions.
Mais le dealer est arrivé, du coup.
De stupéfiants.
Ça,
oui. Mais surtout, imaginez le scandale lorsqu'après un dîner arrosé, Ellis écrivit sur son smartphone qu'il venait de passer une soirée du côté de West Hollywood et qu'il avait été, je cite, choqué par le fait qu'une table entière votait pour Donald Trump, mais qu'il n'était pas pressé de le faire savoir. Le lendemain, Bret Easton Ellis découvrit que son tweet avait largement été partagé dans le monde entier. Ça lui a valu une énorme volée de bois vert.
Alors au-delà de ces anecdotes, Baptiste, des goûts et des points de vue politiques, qu'est-ce que Bret Easton Ellis cherche à exprimer dans son dernier livre White?
C'est l'un des intérêts de cet ouvrage sur lequel on peut largement disserter, on peut partager ses points de vue ou pas, tout ça est très ouvert. Bret Easton Ellis surtout décrit les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur notre monde, sur notre psyché collective. Selon lui, Twitter encourage, je cite, « la colère et le désespoir, depuis l'exagérément sincère, en passant par le signaleur de vertu, le débile, le littéral, jusqu'au dépourvu d'humour. » Aussi, pour l'auteur, Twitter est devenu, je cite, « l'endroit pour les pensées fulgurantes et les réponses immédiates à des similitudes culturelles, pour capturer des choses qui flottaient dans l'ère numérique, un endroit où proférer des insultes et manifester une absence de conscience, c'était une machine construite pour l'outrage et le scepticisme. » Il remarque par ailleurs une frustration et un dégoût, je cite, « entièrement provoqué par la stupidité des gens, adultes, connaissances et inconnus sur les réseaux sociaux qui toujours présentaient leurs opinions et leurs jugements inconsidérés avec la certitude inébranlable d'avoir raison. Le lieu d'échange virtuel aurait-il viré au grand défouloir, exacerbant nos pensées les plus obscures sans dialogue possible? L'instantanéité des réseaux sociaux tuerait-elle la possibilité d'une pensée un tant soit peu développée et une nécessité un tant soit peu de réflexion? Quoi qu'il en soit, on notera que White, d'ailleurs, je répète, les avis sont très divers sur cet ouvrage, White donc est un livre, ou plus exactement, un objet livre. Donc, un retour aux sources pour l'ex-tweetos addict Bret Easton Ellis, preuve qu'on en revient toujours au livre.
Alors, pour aller plus loin là-dessus, on peut évidemment lire votre magazine Lire. On peut également réécouter la mini-série en deux épisodes que nous avons donc consacrés à Bret Easton Ellis. C'était il y a 2 semaines. Merci beaucoup, Baptiste Ligier, et à bientôt.